Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie sur Radio Cité Genève.
Bonjour, c'est Aristide qui est ravi de vous retrouver après un long confinement pour l'émission Nectar. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses et la viticulture est en grande souffrance hein, parce qu'on sait que les ventes ont été médiocres. Donc nous sommes d'autant plus heureux de reprendre la défense et illustration du vignoble genevois. Non par chauvinisme, mais simplement pour la qualité du travail qui y est fait. Aujourd'hui, nous rendons visite au domaine des Pendus, qui se trouve à Pessy-Dessous, et qui porte donc un nom peut-être assez lugubre, le domaine des Pendus, voilà. Eh bien, nous allons tout d'abord, en préambule historique, évoquer un tout petit peu la question de la peine de mort à Genève. Vous vous souvenez peut-être que nous avions déjà évoqué les lois Gombette qui faisaient que un voleur de raisins, surtout s'il agissait nuitamment, pouvait être condamné à mort et pendu de suite. Eh bien, la peine de mort a longtemps existé à Genève, non pas tant pendant le Moyen-Âge, ce qui est peut-être un tout petit peu surprenant, mais elle connaît, si on ose le dire de manière un petit peu cynique, son âge d'or au moment de la réforme. Bon, là, à ce titre, Genève n'est pas un cas particulier. La peine de mort existe dans toute l'Europe, elle est extrêmement répandue, et c'est en somme une affirmation des droits régaliens des États. Voilà, ça, c'est une chose qui appartient à la souveraineté du chef d'État de condamner à mort les gens. Alors, à cette époque, la peine de mort était vue, peut-être pas vraiment comme un châtiment, mais comme une mesure destinée à prévenir le crime, ce qui bien entendu ne fonctionnait pas. Alors il y avait, à l'époque, toute une série de délits qui étaient bien listés, qui menaient à la condamnation à mort. C'était les meurtres, évidemment, les infanticides, les viols, les incestes, les adultères aussi, les vols nocturnes, les vols domestiques, et puis encore une chose qui maintenant nous fait encore froid dans le dos, c'était la sorcellerie. Les personnes qui étaient accusées de sorcellerie étaient mises à mort. Il faut savoir que cette peine de mort s'appliquait autant aux femmes qu'aux hommes, et que bien souvent elle était d'ailleurs infligée par contumace, c'est-à-dire que le fuyard en réchappait, tant mieux pour lui. Alors on créait une effigie, un mannequin qui lui ressemblait plus ou moins, et puis par exemple on pendait ce mannequin. Voilà, il s'agissait simplement d'avertir le peuple du sort qu'il attendait si jamais il fautait. Voilà. Alors les exécutions, il y en a eu beaucoup. Nous sommes au domaine des pendus, donc il y avait la pendaison, mais tout autant le bûcher, dont s'est servi, n'est-ce pas, Jean Calvin, malheureusement. Et puis il y avait la noyade dans le Rhône. L'exécution avec une grande épée, comme celle que pratiquait le bourreau Tabazan, n'était plus en vogue. Voilà. Les procès étaient rondement menés. Il y avait une autorité pour ça. Et 24 heures après le procès, la sentence était exécutée. Voilà. Alors la question, c'est de savoir s'il y en avait beaucoup de ces pendaisons. Eh bien, un des lieux, c'était la plaine de Plainpalais, et entre 1700 et 1750, le peuple a pu assister à 48 pendaisons. Dans un sens, c'est pas beaucoup, on peut dire à peu près une pendaison par année. Les pasteurs, la compagnie des pasteurs, étaient convoqués comme consolateurs, mais face à cette tâche, ils ont renaclé. Alors, la pendaison devait avoir un côté spectaculaire, comme on l'a dit, et exemplaire. Donc, les gibets étaient placés à des endroits bien en vue. Par exemple, la colline de Pinchat, le sommet de la colline, permettait d'aligner les gibets, et là, on pouvait voir les condamnés, les suppliciés, pendus pendant des jours et des jours. Eh bien, il en était de même pour le coteau qui se trouve près de Penet. C'est un magnifique coteau. C'est une lisière de forêt, et là également on avait installé des gibets. Eh bien, c'est en ce lieu que se trouve un magnifique vignoble d'une douzaine d'hectares avec une très très belle exposition, quasiment plein sud, et le patron du vignoble est monsieur Christian Sossauer. La famille Sossauer se trouve depuis quatre générations à la tête de ce domaine. Voilà. Donc nous allons découvrir les produits, nous allons découvrir le personnage du vigneron qui est responsable de toute cette magnifique culture.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie sur Radio Cité Genève.
C'est toujours Aristide, vous êtes toujours sur Radio Cité. Après que nous ayons parlé de la peine de mort en région genevoise, ce qui se justifiait puisque nous sommes au domaine des pendus, nous avons le plaisir d'être accueillis à Penet-Dessous par M. Sossauer, donc, qui travaille pour le domaine des pendus. Alors, d'abord, pour satisfaire la curiosité des auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots purement historiques sur les pendus qui étaient alignés en haut du coteau qui vous surmonte ?
Alors, bonjour, oui, je peux vous donner quelques informations. En effet, donc à Penet, il faut savoir que jusqu'en 1536, il y avait un château fort, assez important. Et quand la réforme genevoise, qui a mis un certain temps à se mettre en place, a vu une période assez sombre, en fait, vraiment d'exactions catholiques contre protestants et vengeance, etc., ce fief du château de Penet est devenu un peu le poste résistance des catholiques qui étaient chassés hors des murs de la cité. Et en 1534, Genève arrive avec une petite escouade, on peut dire ça comme ça, devant les murs des Penaisans, qui, je ne sais pas s'ils ont eu le temps de leur laisser s'exprimer, mais en tout cas, ils ont fait une sortie du château et ils les ont tués. Et
il n'y avait plus besoin de les pendre, alors.
Il n'y avait plus besoin de les pendre. Ouais, alors, ils ont été pendus, déjà morts, en fait. Voilà, les soldats genevois ont été pendus par les pieds, effectivement, sur une... Il y avait une place qui s'appelle les Fourches Patibulaires, qui est aujourd'hui une parcelle de Chardonnay. Et c'est quand mon père a planté cette parcelle qu'il a retrouvé ce nom sur des vieux plans et qu'il s'est dit, là, il y a une histoire.
Donc c'est un événement tout à fait ponctuel. C'est pas un endroit qui était privilégié pour sa belle exposition, pour supplicier les voleurs et autres bandits de grand chemin de la région. C'est un épisode tout à fait restreint.
Alors, cet épisode qu'on compte et qui fait le nom du domaine des pendus, c'est un épisode restreint de la guerre de réforme, on peut appeler ça comme ça, mais cet endroit, cette place de l'échafaud, a existé pendant très longtemps, pendant toute l'époque du château. Donc, régulièrement, il y avait des pendus sur cette parcelle. Ouais.
Voilà, donc on administrait la justice, enfin justice peut-être entre pertes de guillemets, sait-on jamais, et puis on pendait les gens sur les lieux le lendemain de la sentence.
Ouais. Pour les détails juridiques de l'époque, il faudra vous tourner vers quelqu'un de plus spécialiste que moi. Mais ce qui m'a surpris quand j'ai vu des plans de cette époque, parce qu'après on a un peu cherché aussi quelle était la forme du château, etc., pour faire une sorte de reconstitution, c'était que sur la seule commune de Satigny, vous aviez peut-être, je sais pas, 5 ou 7 places d'exécution publique. Ce qui est aujourd'hui la commune de Satigny, mais qui était peut-être chaque hameau, chaque village avait sa place de jugement, de sentence.
Voilà, donc ça, c'était en somme assez courant à l'époque. C'était... Voilà. Pause.
Radio Cité Genève.
92.2 FM.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie sur Radio Cité Genève.
Voilà, vous êtes toujours avec Radio Cité, avec Monsieur Sossauer du domaine des pendus de Penet et Aristide. En somme, ce titre, domaine des pendus, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il a choisi ? C'est les initiateurs du domaine, il y a 4 générations ou bien ?
Alors non, ce sont mes parents, Christian et Pascal Sossauer. C'est eux qui sont les initiateurs du domaine dans le sens viticole du terme.
Voilà, mais ils ont choisi le terme comme ça. C'est pas un peu macabre ?
Effectivement, c'est assez macabre, c'est assez curieux et je me suis plusieurs fois posé la question, est-ce qu'il ne faudra pas que le jour où je reprends ce domaine, changer ce nom? Mais finalement, ça attire la curiosité, je pense, des gens et bah, comme vous, ça les fait arriver jusqu'ici.
Voilà, bah, c'est une très bonne chose. Donc, on dira en deux mots que c'est vendeur, tout simplement. Voilà. Il y a une question que je brûle de vous poser parce que j'ai parcouru votre site internet, c'est celle de vos tonneaux.
Alors oui, on a une histoire très locale aussi sur des tonneaux plus que suisses, des tonneaux genevois, voire même penaisans. Donc il faut savoir que sur la commune de Satigny, il y a un bois, un massif qui s'appelle le bois de Merdizel.
Du nom de son odeur d'ailleurs, même si c'est pas très poétique.
Ah, je ne savais pas, que c'est le nom...
C'est ce que j'ai lu, voilà. Il y a une puanteur qui règne à certains endroits, sait-on jamais. Et alors donc, le bois de Merdizel offre des chênes qui sont propres à la fabrication de tonneaux?
C'est exactement ça. Le bois de Merdizel offre des chênes. On savait depuis toujours qu'il y avait des chênes avec des diamètres assez intéressants pour les travailler. Et on a fait venir une fois un spécialiste qui a dit « Ah oui, c'est la bonne essence, c'est du chêne rouge. » Et après, ben... On est parti sur un projet avec un domaine voisin qui est le domaine de Château des Bois, qui sont les propriétaires d'une des plus grandes parties vraiment de ce bois. Et c'est surtout là qu'on trouvait les plus beaux chênes. Et on a fait un abattage en 2014 et on les a amenés vers un des derniers tonneliers suisses qui est en Suisse allemande, qui s'appelle Monsieur Soupiger. Et comme ça, on a pu réaliser des tonneaux 100% local, 100% genevois, et dans lequel maintenant j'élève certains de mes vins.
Voilà, donc on parle toujours du chêne du Limousin ou Dieu sait d'où ils viennent, mais finalement le chêne genevois s'avère tout aussi excellent.
Il s'avère tout aussi bon et aussi propre. Et à un moment, on avait l'idée de travailler avec un tonnelier qu'on connaissait en France. Après, pour des raisons de douane, c'était un peu compliqué de faire passer le bois sous forme de planche et de faire revenir sous forme de tonneau. Mais ce qui m'a surpris, c'est que le tonnelier français, il connaissait déjà le chêne suisse. Et il savait qu'il y avait des chênes en Suisse et avec lesquels on pouvait faire des bons tonneaux.
Voilà, donc je déduis de cela que le vin du domaine des Pendus est vraiment 100% genevois et même 101%, davantage que les autres. Voilà. Dans votre domaine, il y a, je crois, passablement de cépages. J'ai compté 16 étiquettes différentes. Alors bon, ben, il y a les étiquettes classiques, je pense que vous avez du Gamay, du Pinot, du Chasselas, du Chardonnay, mais j'aimerais vous demander ce qu'est par exemple le Dunkelfelder.
Alors le Dunkelfelder, c'est un cépage teinturier, donc on voit rarement son nom sur une étiquette parce qu'on ne fait quasiment jamais une bouteille 100% Dunkelfelder. C'est un cépage qui est gustativement pas forcément très intéressant, mais qui a une couleur, c'est de l'encre, c'est noir comme de l'encre. Et ça permet, enfin à l'époque on les plantait pour un peu foncer les pâles Gamay et les pâles Pinot Noir.
Voilà, donc un cépage teinturier. Un autre cépage relativement rare mais qui a l'air de se développer un peu partout, c'est le Païen.
Donc le Païen ou Savagnin blanc, très vieux cépage, mais qui effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu le cépage blanc qui est un peu en vogue et qu'on voit émerger un peu partout en Suisse romande. Ouais.
Voilà, vous pouvez le caractériser, un vin assez sec?
Alors, assez sec effectivement, assez sec et paradoxalement assez riche, dans le sens où on peut facilement avoir beaucoup d'alcool, mais on garde de la minéralité. C'est un vin qui se vieillit très bien, comme un chardonnay. On peut vraiment garder le savagnin. Et c'est un cépage qu'on a choisi de planter parce qu'il offre aux vignerons, je pense, beaucoup de possibilités dans les vinifications. Voilà.
Voilà. Une autre étiquette qui m'a intrigué, c'est le charivari.
Charivari, alors, c'est un assemblage de blancs, principalement composé de chasselas, avec un peu de pinot blanc et une tombée de muscat pour parfumer. C'est un vin qu'on voulait très festif, c'est pour ça qu'on a donné ce nom, Charivari, qui est le nom d'un, je sais plus quel carnaval, je crois le carnaval de Bâle.
Ouais, je l'ignore, mais disons c'est un vin poétique qui suggère quelque chose d'assez joyeusement débridé finalement.
C'est exactement ça, c'est le vin d'apéro de la maison, festif par excellence.
On refait une pause.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie sur Radio Cité Genève.
Voilà, vous êtes avec Aristide et Monsieur Sossauer du domaine des pendus. C'est toujours l'émission Nectar. Eh bien, maintenant, c'est exactement la période des effeuilles. Alors, je ne sais pas si le mot effeuille est un tout petit peu trompeur, parce que finalement, on ne fait pas qu'enlever des feuilles. On enlève aussi des grappes, n'est-ce pas ?
C'est vrai, tout à fait. Mais généralement, ça se succède un peu. D'abord, on enlève les feuilles et quand on aura fini, on va enlever les grappes plutôt au mois de juillet. Après, c'est vrai que c'est une période qui a beaucoup changé parce qu'à l'époque, ça se faisait énormément à la main. Maintenant, ça se fait de plus en plus à la machine. Donc, les équipes d'effeuilleurs ou d'effeuilleuses, comme ils en parlent à la fête des vendanges, ça a tendance à disparaître.
Voilà. Les effeuilles à la machine, vous me dites, mais votre vignoble, qui est d'ailleurs d'un seul tenant et qui est tout à fait magnifique, question de paysage, est-ce que l'enjambeur y passe ?
Alors non, chez moi pas d'enjambeur. Bah, vous avez remarqué peut-être, on est sur des coteaux avec une pente assez importante et ça devenait un peu risqué de descendre dans ces dérupes avec un enjambeur. Alors on a préféré planter un peu plus large pour passer avec un tracteur.
Ah d'accord, donc voilà, vous n'avez pas besoin de jouer les cascadeurs avec un enjambeur. Ce coteau est particulièrement bien orienté, il reçoit beaucoup de soleil. Il m'intéresserait de savoir si, selon votre avis, il offre un terroir un peu particulier.
Ça, c'est une grande question. C'est compliqué d'y répondre, mais je pense que oui, j'ai le sentiment, moi, de ressentir de plus en plus un terroir, aussi parce qu'on pratique une culture de plus en plus respectueuse de l'environnement, ce qui permet à ce terroir d'émerger quelque part. Mais aussi peut-être pour d'autres raisons, parce que c'est un coteau qui a été énormément brassé par la main de l'homme, en vérité, et qu'il lui faut peut-être aussi du temps pour que se remettre un peu à s'exprimer.
Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui se révélera avec le temps, avec les années, à mesure que la vigne met des racines plus profondes.
C'est un peu ce que je pense, en effet, ouais. Moi, il me semble qu'on gagne un peu en minéralité dans les vins et j'essayais de trouver pourquoi, comment. Je me disais, tiens, c'est peut-être dû au réchauffement climatique. Mais en même temps, mes voisins aussi sont touchés par le réchauffement climatique. Alors, quelle est la différence ? Et je pense que c'est aussi dû à ce que vous avez dit, l'âge des vignes. Parce qu'il faut savoir que donc mon papa, qui a planté tout ce coteau, quasiment tout seul, de lui-même, on s'est retrouvé finalement au début avec un vignoble très très jeune. Et maintenant, ça fait plus de 30 ans. Et on a enfin, je dirais, des vignes avec un âge intéressant et capable d'aller chercher dans les profondeurs.
Voilà, donc le vin, forcément, avec le temps, se bonifie. La substance profonde de la terre enrichit le vin, forcément, par rapport à des vignes jeunes.
C'est ça, un ancien, comme on dit, donc un vigneron à la retraite, me disait, tu peux pas essayer de sortir justement du terroir sur des plants qui ont un tronc de... large comme un pouce. Et là, je pense qu'il n'avait pas tort. Il faut, alors plus que les racines, scientifiquement, à quoi c'est dû, je ne pourrais pas vous répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que plus les troncs sont importants, plus le volume racinaire est important, plus la vigne a de la ressource et vraiment peut nous bluffer sur les arômes. Ouais.
Voilà, ça fait donc la richesse du vin. Voilà, donc quelque chose de tout à fait prometteur. Est-ce qu'avec les effeuilles, vous sacrifiez beaucoup de grappes, est-ce que l'un des buts, c'est pas de limiter le rendement les années où il y a eu forte poussée ?
Oui, tout à fait. On contrôle de manière assez précise, on essaie d'être le plus précis possible le rendement pour plusieurs raisons. Déjà pour assurer une bonne maturité de la vendange à l'automne. C'est clair que si on va tout laisser et que peut-être si la météo se dégrade au mois d'août, la vigne n'aura pas les moyens de tout mûrir. Donc on veut se garantir une vendange de bonne qualité. Et on veut aussi garantir quelque part un volume de production raisonnable pour quelque part maintenir une certaine qualité des prix de la vendange aussi.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est en somme une régulation qui opérait dans le vignoble. Et peut-être qu'en tout dernier moment, il s'enlève encore des grappes, selon les cas.
Oui, c'est arrivé, comme l'année passée, par exemple. C'est toujours difficile de se rendre compte au mois de juillet de la quantité précisément de raisins pendus. Et c'est vraiment ça on s'en rendra beaucoup plus compte plus on approchera des vendanges. Donc en général, juste avant que les raisins changent de couleur, là on peut encore aller faire des corrections.
Voilà, eh bien, nous tournons la page des effeuilles. Nous avons connu la période du confinement, plus ou moins sévère. Des gens, des Genevois, des citadins, je pense, ont tout de même pu se rendre au domaine. Quelle était votre expérience pendant cette période ?
Assez positive, je dois dire. Moi, j'ai éprouvé énormément de plaisir à voir les Genevois se promener dans les vignobles et venir nous rendre visite à la cave, s'approprier un peu ces lieux quelque part qu'ils avaient, j'avais le sentiment, un peu délaissés, et ça nous a fait plaisir. C'est une reconnaissance de notre travail. Vous parliez avant du paysage, c'est vrai que notre travail c'est aussi d'entretenir le paysage et de voir les gens ici, oui, ça nous a fait plaisir.
Voilà, donc vous espérez que ce sont des clients qui vont se confirmer dans la durée?
Bien sûr, oui.
Voilà, non, c'est délicat de parler des bienfaits du corona, mais c'est vrai que la fonction de cette émission est de contribuer à l'attachement des Genevois pour les produits locaux, notamment pour la viticulture. Donc, on peut espérer que, à la faveur de ces contacts, il y aura une espèce de redistribution des cartes.
Oui, tout à fait, parce que je pense que j'espère que ça a permis à beaucoup de Genevois de goûter de la production qui était faite juste à côté de ces jeux. Et moi, j'ai confiance dans la qualité de nos produits, donc je pense qu'une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. Donc j'espère qu'ils reviendront.
Une question que je me suis posée, qui est tout à fait pressante dans ma bouche, mais ça devait être la journée cave ouverte. Est-ce que, entre vignerons, vous avez parlé de la reporter? Est-ce qu'il y aura une opportunité pour la population genevoise de, je dirais, célébrer de nouveau cette journée en automne?
Alors, non, pas en 2020, malheureusement. Il était question de la reporter. On avait planifié, enfin, il avait été planifié par le PAGE une date quelque part en juillet, et finalement, avec la durée de la crise, le projet a été complètement abandonné. Il y a eu une opération, on va dire plus virtuelle, qui a été mise en place avec les caves ouvertes à la maison. Donc chaque producteur a créé un carton de dégustation, un panachage qu'on envoie aux clients dès qu'ils le commandent. Après, maintenant que les portes des domaines se sont réouvertes vraiment et qu'on peut accueillir 300 personnes pour un événement, je pense que chaque cave va faire à l'interne, risque de faire quelque chose. Oui. En tout cas, nous, au domaine des Pendus, le 20 juin, on va faire des caves ouvertes.
Ah voilà, bon, eh bien, écoutez, ben voilà une bonne nouvelle de plus. Je crois qu'on fait une nouvelle petite pause, une dernière.
Radio Cité Genève.
92.2 FM.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie sur Radio Cité Genève.
Voilà, c'est toujours Aristide, vous êtes toujours sur Radio Cité et vous écoutez toujours l'émission Nectar. En cours d'entretien est venu M. Christian Sossauer, qui est, disons, l'aîné de l'exploitation, si je peux dire, le père, celui qui a planté les vignes et auquel on faisait allusion tout à l'heure. Une des grandes préoccupations des vignerons actuels, c'est que les cuves sont encore largement pleines et que la récolte nous arrive d'ici moins de 100 jours. Quelle perspective, quelle parade, quelle stratégie? La question est épineuse.
Effectivement, la vigne est en pleine floraison, elle est magnifique, et puis donc on devrait être réjoui, et puis dans les fêtes, inconsciemment, on se dit mais qu'est-ce qu'on va en faire, au mois de septembre? Donc on n'a pas trop de nouvelles de ce qui se passe au niveau des marchés, mais il y avait déjà beaucoup de vin aux dernières vendanges, où les problèmes ont commencé, et puis avec justement ce Covid, toutes ces manifestations et qui ont été annulées et tout. Donc ce vin n'a pas été bu. Donc c'est préoccupant parce que tout le travail va être fourni. Et puis nous, on sait ce qu'on peut vendre dans nos bouteilles pour nos clients. Mais il y a une partie qui part en vrac. Et l'inconnu, c'est qui sera preneur de ce vin, de ce jus de raisin, et surtout à quel prix.
Je me rappelle qu'en 1982, la marchandise avait été stockée dans des piscines. Est-ce qu'on risque que, je ne sais pas, cette espèce de calamité se reproduise?
Non, là, vous parlez d'un événement dont peu se souviennent. Ça avait marqué les esprits, mais là, c'était 82, cette année pléthorique où, effectivement, il y avait eu pratiquement trois récoltes en une. Là, c'est quand même un petit peu différent, depuis les limitations, depuis les choses. Il y a quand même moins, c'est juste... C'est juste qu'est rageant, c'est qu'on nous dit qu'il y a trop de vin en Suisse et qu'on n'en produit qu'un tiers. Donc c'est quand même pas le tiers produit par les vignerons suisses. Ils font déborder le tonneau. Donc c'est vrai que là, il y a des initiatives, il y a des choses qui se passent. Ça doit se passer au niveau fédéral nous permettre de remettre un cadre, de pouvoir permettre aux vignerons suisses qui font les travaux de qualité, des vins de qualité, de pouvoir en vivre et de freiner un petit peu ces importations. C'est ça qui...
Voilà, donc les vignerons genevois comprennent très bien qu'il y ait des importations pour satisfaire à l'ensemble de la consommation suisse. Cela dit, tout le problème consiste pour l'autorité politique à trouver une bonne régulation, à trouver les bons équilibres, et puis aussi une équité, parce que il n'y a actuellement peut-être pas l'équité voulue, étant donné que certaines marchandises à l'étranger sont produites dans des conditions totalement différentes et beaucoup moins exigeantes qu'en Suisse.
Oui, ça c'est clair que c'est une évidence. Alors, je pense qu'on doit avoir les normes de production environnementale, sociale les plus élevées au monde. Et en contrepartie, les frontières sont grandes ouvertes à des produits qui ne les respectent pas. Donc ça pose quand même un problème. Donc nous, on est là, on fait partie du paysage, on l'entretient, et puis un tiers, on demande avec un tiers de pouvoir vivre, ce qui laisse quand même beaucoup aux autres, aux importateurs, pour gagner leur vie. Mais même ça, visiblement, c'est pas suffisant. C'est ça qui me dépasse. Quand vous m'avez appelé pour me demander de parler un peu, je suis parti sur le beurre, là. Les gens, on peut lire dans le journal, la Suisse va importer 1000 tonnes de beurre. C'est quand même extraordinaire qu'un pays comme la Suisse, un pays où il y a des montagnes, où il y a des vaches parce qu'ils peuvent pas faire autre chose, où on produit du lait, on limite les gens à faire leur boulot, et puis que tout à coup, il y a plus de beurre en Suisse, et puis on va le chercher à l'étranger. C'est comme si l'Arabie Saoudite devait acheter du pétrole. À un moment donné, de qui se moque-t-on? Donc là, on se rend compte que politiquement, il y a des choses qui ne vont pas. On permet des choses qui sont que moi je n'arrive pas à comprendre, et monsieur tout le monde, je pense que quand on explique les choses comme ça, on n'arrive pas non plus. Je veux dire, on est là, on fait notre job, on fournit des choses, et à un moment donné, où il y en a pas, où il y en a trop. Mais de toute façon, c'est la solution pour ceux qui importent et tout, c'est assez simple en fait. S'il y a trop, les prix se cassent la figure, puis s'il n'y a pas assez, de toute façon, on va chercher de l'autre côté.
Voilà, donc c'est peut-être la conclusion de cette émission. Il appartient aux vignerons de leur côté de faire du bon vin et aux politiques de prendre des mesures judicieuses. Merci à vous.
Radio Cité Genève.